Radio Kapi.
Bienvenue à ce journal que vous présente Belinda Bossouma. En voici la charpente. Le chef de l'État doit constater la démission d'office des juges Noël Kilomba et Jean Oubou, estime le pôle de communication de la présidence de la RDC. Motif, ils ont été nommés à la Cour de cassation mais n'ont jamais prêté serment alors que la cérémonie est déjà passée. Il faut améliorer les conditions de vie des militaires FARDC qui sont au front, vu leurs sacrifices, voire au prix de leur vie, et cela au nom de la patrie. C'est le vœu des élus de Beni. L'un d'eux, Saïdi Balikwisha, revient de la zone, vous l'entendrez. L'invité de ce journal, Jean Bamanissa Saïdi, le gouverneur de l'Ituri et ceux du Nord Kivu et du Sud Kivu au sang à Kinshasa, ils viennent échanger avec le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sur la situation sécuritaire dans la région de l'Est. Madame, Messieurs, bonsoir. La présidence de la République estime que les anciens juges constitutionnels Noël Kilomba et Jean Oubou, nouvellement nommés à la Cour de cassation et qui n'ont pas prêté serment, sont démissionnaires. Ceci est contenu dans un communiqué publié aujourd'hui. Par conséquent, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le chef de l'État, il revient à ce dernier de constater la démission d'office de ses membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions susévoquées, indique le communiqué signé par le pôle de communication de la présidence de la RDC. Explication avec vous, Alain Romouchinge.
S'il faut considérer que les intéressés sont toujours membres de la Cour constitutionnelle, comme ils le prétendent, les deux juges tomberont sous le coup de l'article 34, alinéa 1er de la loi organique numéro 013-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose « Tout membre de la Cour ou du parquet général, tout conseiller référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé à l'article 31 de la présente loi organique lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de sa nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du parquet ou de conseiller référendaire, argumente la présidence. Dans le cas sous examen, indique le communiqué, les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 juillet 2020, tandis que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au bureau du président de la République le 4 août 2020. Il y a donc forclusion par rapport au délai de 8 jours prévu par la loi, conclut la présidence.
Pendant ce temps, l'Église du Christ au Congo, ECC, se dote d'une feuille de route pour les réformes électorales auxquelles elle s'est engagée. À travers sa commission justice, paix et sauvegarde de la création, elle a clôturé aujourd'hui à Kinshasa ses ateliers de 2 semaines sur des réflexions avec l'élite protestante. Ces ateliers se sont inscrits dans le cadre de l'organisation d'un éventuel forum relatif à la restructuration totale de la CENI, cela avant les prochaines élections générales dans le pays. Le porte-parole du président de l'ECC, le pasteur Eric Senga, livre ici le rapport de ses ateliers. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le rapport général est d'abord d'affirmer que l'Église du Christ au Congo est bel et bien engagée dans la démarche des réformes électorales. Nous avons également voulu préciser à l'opinion que les actions qui sont menées dans ce cadre ne relèvent pas forcément et uniquement les initiatives personnelles du président de l'Église du Christ au Congo. Il était question d'impliquer la base qui est l'élite protestante qui réunit les députés, les personnalités importantes, des professeurs d'université, des chercheurs, des techniciens protestants en matière électorale. Ce qui nous a permis de travailler pendant 3 semaines d'affilée et aujourd'hui nous avons clôturé. Les rendus de ces ateliers nous donnent un cahier des charges beaucoup plus clair, mais à ce stade je pense qu'il y a une équipe technique qui va encore travailler pour étoffer le texte, lequel sera déposé au bureau du corpus des députés parce que en fait le président de l'ECC recevra le samedi prochain les députés, les sénateurs protestants avec qui il va s'entretenir et dévoiler sur sa feuille de route.
Entre-temps, au sud Kivu, la famine, le chômage, le taux du dollar et le taux de mortalité dû au coronavirus ou à l'insécurité sont à ce jour en hausse et devenus le pain quotidien des populations locales, constat de la présidente intérimaire du bureau de coordination de la société civile du sud Kivu, Marie Migani, l'a fait savoir au cours d'un point de presse vendredi à Bukavu. La présidente du bureau de coordination intérimaire a tracé un tableau sombre du contexte sociopolitique de l'heure dans cette province présence. Marie Migani est au micro de Michel Chirimwami.
Sur les points politiques, nous assistons à des tiraillements dans la coalition CACH, FCC et FCC CACH. La société civile du site Kivu exprime sa vive préoccupation quant aux positions des acteurs politiques sur les enjeux du moment. Il rappelle d'une part aux honorables députés qu'ils s'appellent élus du peuple, bien qu'à travers leur parti politique. Ils ne sont pas élus de parti politique par le peuple. La société civile rappelle aux honorables députés, surtout ceux du niveau national, qu'ils ont le devoir sacré de servir les intérêts de ces peuples dont ils sont l'émanation. Agir contrairement constituerait une trahison du souverain primaire qui reste avant tout leur premier patron. Au vu de l'évolution du contexte sociopolitique actuel en République démocratique du Congo, que les politiciens et les acteurs socioprofessionnels congolais s'abstiennent d'entreprendre des initiatives susceptibles d'entraîner la République démocratique du Congo dans une courbe à concavité vers une situation imprévisible.
Je vous le disais en titre, les élus du territoire de Beni au Nord Kivu plaident pour l'amélioration des conditions de vie des militaires des forces armées de la RDC qui sont au front, luttant contre les forces négatives. Parmi ces élus, le député Saïd Ibalikwisha, qui vient de sillonner la région où se trouvent ces militaires. C'est dans des zones déjà conquises par les FARDC. Après avoir rencontré des officiers militaires et autorités politico-administratives du territoire, ce député estime qu'il est important que les autorités songent à l'amélioration des conditions professionnelles et sociales de ces derniers, vu le sacrifice qu'ils fournissent pour la patrie et au nom de la paix. Le député Saïd Ibalikwisha, au micro de Marc Marofimbo.
Nous devons tous continuer à s'encourager mutuellement, à ne pas démoraliser les forces loyalistes, mais aussi à plaider conjointement pour que les conditions salariales et les conditions professionnelles de nos vaillants FARDC soit au moins amélioré, parce que ces gens-là se sacrifient trop à monnaie de singe, parce qu'ils sont payés des miettes. Vous allez arriver à une position, ils n'ont même pas une moto. Trouver à manger, c'est tout à fait un problème. Heureusement, et les autorités commencent à se ressaisir, mais nous aimerions que cela soit régulier, que la nourriture y soit envoyée à quantité et en qualité pour éviter la monotonie alimentaire, parce que c'est aussi une forme de malnutrition. Il faut que leurs conditions salariales soient aussi améliorées. Il faut qu'on les dote de matériel nécessaire, comme les armes capables de faire face à la nuisance de l'ennemi, parce qu'ils se sacrifient au prix même de leur vie pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la sécurité.
Et puisque nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, 11 personnes ont été blessées et 6 autres interpellées par la police. C'est le bilan provisoire des échauffourées qui ont eu lieu aujourd'hui à Bunia entre les manifestants membres des communautés Alour, Emma, Mambisa, Ndokebo et Nyalikilo et les forces de l'ordre. Les manifestants se disent victimes des tueries et massacres des assaillants des groupes armés URDPC, dit Codeco, à Djougou et exige la fin de ce qu'elle qualifie de génocide. Par ailleurs, elle demande la démission du gouverneur de province de l'Ituri, que ses communautés jugent d'incapable pour gérer cette situation qui perdure, selon eux. Reportage Martial Kizabiamungu.
Malgré l'interdiction du maire de Bunia, les organisateurs de cette marche pacifique, à savoir des membres de 5 communautés qui se disent victimes des atrocités des groupes armés dans la province, sont descendus dans la rue du rond-point ISP au centre-ville. Arrivés vers les ponts Lokoto, les manifestants qui exigeaient ni plus ni moins que la démission du gouverneur de province, Jababanissa Saïdi, accusé d'être incapable de gérer la crise actuelle, ont été empêchés par les éléments de la police nationale congolaise. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes pour les disperser. La police qui s'est introduite au site des personnes déplacées de l'ISP a tiré à balles réelles les manifestants qui s'est dispersé dans ces camps. Les maires de la ville de Bunia, Fimbo Lebilié, indiquent que parmi les blessés, il y a 8 civils en majorité de déplacés, dont un enfant de 2 mois et 3 policiers. Les commissaires provinciaux de la police, le général Sabiti Abdallah, promet de se prononcer dans les heures qui suivent pour fixer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé ce samedi à Bunia. Depuis le quartier Muzipela à Bunia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, trop c'est trop, stop au massacre en Ituri, c'est l'essentiel du mémorandum déposé hier au ministère de l'Intérieur par les jeunes ituriens résidant à Kinshasa dans une déclaration faite à la presse. Christophe Lollet, porte-parole des jeunes ituriens, demande l'implication du chef de l'État pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Christophe Lollet est au micro de Paul Matendo.
Nous réclamons la paix, stop au massacre des innocents en Ituri, parce que nous voyons que chaque jour qui passe, les sang coule. L'Ituri continue à recevoir les sangs de ses fils et filles. Les mamans sont éventrées, les enfants sont égorgés, les maisons brûlées. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que trop c'est trop, que le gouvernement puisse intervenir dans la sécurisation de la population iturienne. Tout ce que le chef de l'État a dit ne reste que sur papier. Ce n'est que de la parole. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il était à Bounia. Il dit que non, il va installer même l'état-major au niveau de Beni. Et nous avions l'espoir que, une fois l'état-major sera installé là-bas, l'Ituri, Beni, toutes ces régions-là seront sécurisées. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Nous déposons d'abord les mémos. Dans le cas où nous ne serons pas répondus favorablement, ou lorsqu'il n'y aura pas la paix, d'une façon naturelle, la population iturienne va se prendre à charge.
Et puis, la brigade d'intervention spéciale intégrée aux forces de la MONUSCO ne doit pas être reconfigurée. C'est la position des chefs d'État membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, position réitérée lors du sommet tenu cette semaine en visioconférence. D'autres détails avec Dieudonné Joseph Kabeangalula.
La République démocratique du Congo a soutenu pleinement la position de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, opposée à une proposition des Nations unies de reconfigurer la brigade d'intervention spéciale sous-régionale intégrée à la force onusienne, selon un communiqué publié mercredi 5 août à la suite de la réunion en visioconférence. Sept chefs d'État des pays de la SADC, dont le président congolais Félix Tshisekedi, ont participé par visioconférence mercredi à ces sommets de l'organe chargé de la défense et de la sécurité élargie aux pays contributeurs des troupes de la brigade. Créée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU en 2013, la brigade spéciale est dotée des mandats offensifs. Composée de 3000 casques bleus, cette brigade spéciale est autorisée à recourir à la force de manière offensive pour neutraliser des dizaines de groupes armés locaux et étrangers actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Les pays contributeurs pour cette brigade sont la Tanzanie avec 1300 soldats, le Malawi et l'Afrique du Sud. À titre de rappel, cette brigade avait participé activement aux côtés de l'armée congolaise à des faits en novembre 2013 et les mouvements du 23 mars M23.
Direction Boutembo. Les élèves membres du mouvement des élèves finalistes de Boutembo soutiennent la reprise des classes prévues le lundi 10 août en cours. Ils ont organisé une marche pacifique vendredi, marche qui a chuté à la mairie et au bureau du directeur provincial de l'EPST Nord Kivu 2. Ici, un mémorandum a été déposé après lecture. Dans ce document, ces élèves menacent de passer aux actions de grande envergure en cas d'un nouveau report. Florida Kahambu signe ce reportage.
Ces élèves finalistes expliquent qu'ils sont exposés à plusieurs antivaleurs en cette période où ils n'ont aucune occupation. Thanks Walaya est le vice-président de leur structure.
Nous avons tous été témoins des conséquences liées à cette suspension des cours, notamment les taux élevés de grossesse prématurée, la prise de la drogue, l'assimilation des écoliers et élèves en des vendeurs aux travaux non idoines, la manipulation de ceux-ci dans des partis politiques. Et certes, ça donne au vol par manque d'occupation, pour ne citer que cela.
Réceptionnant leur mémorandum, les directeurs le directeur provincial de l'EPST Nord Kivu 2 leur a rassuré de la reprise des cours le lundi. Ada Koudawa leur demande ainsi de se préparer pour les examens d'État.
Nous n'avons pas une instruction qui est venue démentir la date du 10. Donc le 10, nous avons la reprise. Et il faut bien préparer vos cours. Je vous informe que normalement, ils sont déjà à Goma de l'examen d'État. Cette année, ce ne sera pas une année blanche.
Contacté, Malengera Anema Jérôme, président de l'association des parents d'élèves à Napeko Grand Nord Kivu, indique que les parents sont aussi inquiets que les élèves à ces sujets. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, les gouverneurs de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu sont invités à Kinshasa pour des échanges avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. D'après le gouverneur Jean Bamanissa de l'Ituri, après 4 mois de confinement et compte tenu du fait que la situation évolue fortement dans la région de l'Est, surtout avec la prolifération des groupes armés, il est impérieux d'avoir en commun une ligne de conduite et une prise en charge du mécanisme de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, communautaire, ce qui justifie leur présence ici à Kinshasa. Le gouverneur de l'Ituri s'entretient avec Billy Van Lutumba.
Monsieur le gouverneur Jean Bamanissa, bonjour.
Vous êtes en mission ici à Kinshasa. Il y a des interrogations par rapport à votre présence ici avec vos collègues de Nord Kivu et Sud Kivu. Pouvons-nous savoir de quoi il s'agit?
Effectivement, nous sommes ici après 3-4 mois de confinement et la situation évolue fortement dans nos provinces de l'Est. Il y a à certains endroits encore prolifération des groupes armés, tout comme il y a des mécanismes de mobilisation où il y a des groupes armés qui sont en train de se rendre, et cela fait une charge, un nombre important au sein des provinces pour lesquelles nous devons avoir une ligne de conduite et une prise en charge du mécanisme DDR. Mais vous savez, ce mécanisme a été usité depuis plusieurs années en RDC et il y a une expérience qui n'a pas toujours été bonne parce que l'intégration des différentes forces armées au sein de notre armée nationale et républicaine prête parfois à confusion, surtout quand ces personnes restent dans les zones où ils ont eu à opérer. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi de DDR communautaire. Mais tout ça, ça demande une réflexion pour savoir comment est-ce que ça doit être mis en place, appliqué. Et pourquoi arriver à un DDR communautaire? Donc c'est tous ceux qui sont agrippés, tous ceux qui sont dépendants de ceux qui tiennent des armes aussi qu'il faut travailler. Et ça rejoint tout de suite aussi le volet développement, infrastructure dans nos provinces, à l'arrière-pays, pour que les différentes communautés, les différents groupes puissent avoir de l'emploi et ne pas trouver les forces négatives comme étant une possibilité pour eux de se retrouver après de s'imposer dans la démobilisation, le désarmement et la réinsertion.
Et à votre niveau, venant de l'Ituri, après 4 mois, vous avez déjà au moins envisagé certaines stratégies pour essayer de ramener la paix dans votre province. Pouvons-nous avoir une idée? C'est quoi que vous amenez comme piste de solution avant votre rencontre avec le ministre de l'Intérieur?
Je pense que le plus important, c'est le développement. Donc, nous avons besoin des routes, nous avons besoin de travail, et le travail peut s'exercer le long des routes avec le commerce, parce que nous sommes une zone transfrontalière et le commerce s'y développe très fortement, mais il nous faut pour cela des infrastructures routières et la facilitation du commerce transfrontalier, ainsi que le travail de la terre que beaucoup de personnes savent faire. Et pour cela, nous avons préconisé de mettre en place les brigades agricoles pour avoir du matériel, préparer les terrains, organiser les différents groupes ou communautés, et même pour permettre une bonne relation civilo-militaire, permettre à ce qu'on puisse avoir aussi l'armée qui travaille la terre dans la production avec les différentes communautés. Et nous avons des marchés non seulement locaux mais sur Kisangani, Kinshasa. Et nous avons aussi les zones minières où aujourd'hui à gel des titres miniers par la Soukibo, par MGM et d'autres entreprises et qui empêchent différents groupes orpailleurs de travailler. Donc nous préconisons qu'ils s'organisent en coopératives minières et que nous puissions les installer dans des endroits et que nous puissions lever ce blocage de gel sur des immenses étendues par des entreprises qui aujourd'hui sont toutes exploitées mais dans le désordre.
Monsieur le gouverneur, avec un préalable de retour à la sécurité, parce que c'est plein de tueries sans la sécurité, ces initiatives peuvent être lettre morte.
Il faut le faire en même temps que notre armée est en train de se consolider dans ses opérations et d'apprendre aux différents citoyens qui perdent le temps à se monter en force négative. L'armée leur rappelle qu'elle n'est qu'une, qu'elle est républicaine pour la RDC. En même temps aussi, il faut offrir aux différentes populations des possibilités d'un mieux vivre, d'un mieux être.
Monsieur le gouverneur Jean Manissa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, notre invité, le gouverneur de l'Ituri, s'entretenait avec Billy Ivan Lutumba. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Alain Rung Mouchinj, supervision de Julien Nyamweni. Mise en onde, Alain Goy et Belinda Bosuma vous la présentez. Merci de votre attention.